Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Les Voleurs de Feu, un podcast dédié à la poésie et à l'écriture. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Gaspard Zajdela, qui a sorti la deuxième édition de son premier recueil de poèmes, À la recherche du temps rêveur, publié via la plateforme d'auto-édition française The Book Edition. J'ai été très contente de pouvoir le recevoir comme premier invité des Voleurs de Feu parce que j'ai eu un véritable coup de cœur pour son recueil de poèmes. J'ai trouvé les poèmes incroyablement bien écrits, avec un vrai travail sur la langue qui ressort notamment à travers l'emploi de mots peu courants, mais sans que cela fasse du tout surfait, au contraire. Cette richesse des mots est au service de textes dont la lecture est très fluide. Les mots nous bercent et ressortent des poèmes une grande beauté et une grande simplicité. J'ai trouvé le recueil très lumineux, les thèmes abordés sont très variés, et si je devais résumer ce recueil et l'écriture de son auteur, je dirais que c'est un élixir de poésie. La lecture des poèmes s'enchaîne naturellement parce qu'on sait qu'on va être surpris, émerveillé, poème après poème. La lecture se fait comme une promenade, entre mélancolie et lumière, entre instants de vie et réflexion, une promenade dont on voudrait qu'elle ne finisse pas. À la recherche du temps rêveur, c'est un recueil qu'on a envie de relire pour ne pas oublier les poèmes qui le composent et en faire des compagnons de voyage. Et pour être honnête, si j'avais encore récemment des a priori sur l'auto-édition en elle-même, pour moi, ce recueil est bien la preuve qu'on peut trouver des bijoux à la fois dans le circuit classique de l'édition, mais bel et bien aussi dans l'auto-édition. Et pour se procurer le recueil de Gaspard Zajdela, vous pouvez passer sur le site internet de The Book Edition. Vous pouvez trouver le lien direct du site dans la bio Instagram de Gaspard, ainsi que sur son Twitter et LinkedIn. Je vous laisserai tous les liens en barre d'infos pour que ce soit plus simple. Et je vous laisse maintenant avec l'entrevue que j'ai enregistrée avec Gaspard Zajdela dans une brasserie parisienne. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Gaspard, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans cette première interview que je réalise pour Les Voleurs de Feu. Alors peut-être que tu pourrais te présenter un petit peu avant de nous parler de ton recueil.
Bonjour Lina, merci beaucoup de me recevoir. Donc je m'appelle Gaspard Zajdela, j'ai 32 ans et j'ai publié mon premier recueil de poésie À la recherche du temps rêveur. La première édition a été publiée le 29 novembre 2021 et la seconde édition le 8 avril 2022.
Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à écrire ce premier recueil ?
Alors à la base, j'ai fait des études littéraires, un baccalauréat littéraire, ensuite une année de prépa littéraire. Ensuite, j'ai fait des études de médiation culturelle et qui m'ont orienté ensuite vers le théâtre, donc des études théâtrales qui m'ont amené jusqu'en École nationale de théâtre, donc à Charleville-Mézières, l'École nationale des arts de la marionnette. Et ensuite, après mes études, j'ai commencé à animer des ateliers de théâtre et à faire différents métiers. Et de là, en fait, j'ai commencé à écrire. Donc d'abord, j'ai participé à des concours de nouvelles et ensuite à un concours de poésie, qui est le concours de la RATP, le Grand Prix Poésie de la RATP. Donc j'ai participé à l'édition 2020 et j'ai été sélectionné dans les 100 finalistes, donc édité dans un petit recueil. Et de là, en fait, ça m'a donné envie de justement persévérer dans l'écriture poétique, donc d'abandonner l'écriture de nouvelles et même de pièces de théâtre aussi auxquelles je m'étais essayé. Et donc, je me suis lancé le défi d'écrire mon premier recueil de poésie.
Et si tu devais présenter brièvement ton recueil, qu'est-ce que tu dirais de lui ?
Alors, c'est un recueil qui fait 160 pages, qui contient 107 poèmes. Et mon but, c'était vraiment d'explorer une variété de formats poétiques, mais également de thématiques. Donc on trouvera dans le recueil des poèmes qui célèbrent la nature, des poèmes d'amour, des poèmes sur la thématique de la solitude. Voilà, toute une série de thématiques assez variées.
Alors je voulais qu'on discute ensemble de ton approche de l'écriture. Alors est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as abordé l'écriture de ce recueil ? Est-ce que c'était un projet précis dès le départ ou est-ce que c'est des poèmes que tu as regroupés, que tu avais écrits peut-être il y a quelques temps ? Comment ça s'est passé ?
Alors, je crois qu'il y a deux éléments déclencheurs qui m'ont amené à écrire le recueil. C'est d'une part, comme je le racontais tout à l'heure, le fait d'avoir été sélectionné dans le concours Le Grand Prix de Poésie de la RATP en 2020, à l'été 2020. Et du coup, d'avoir eu cette petite reconnaissance, on va dire, par rapport à l'écriture d'un poème. Donc ça, c'était le premier déclencheur qui m'a donné envie d'écrire. Et le deuxième, c'est une interview que j'ai vue sur Internet, sur YouTube, de Simon Johannin, donc qui est un auteur de romans et qui a aussi écrit un premier recueil de poésie, donc il y a quelques années, et qui depuis en a écrit un deuxième. Et j'avais vu donc un interview de lui, c'était dans l'émission Clic. Et donc voilà, il parlait de l'écriture de son premier recueil. Et en fait, un peu additionné le Grand Prix Poésie de la RATP plus l'interview de Simon Johannin, dont j'ai lu en fait que très tardivement ce fameux premier recueil qui s'appelle Nous sommes maintenant nos êtres chers. En fait, voilà, c'est un peu les deux éléments déclencheurs où je me suis dit, bon, bah, tiens, voilà, et pourquoi ne pas écrire un premier recueil de poésie ? Et donc, voilà, à partir du moment où je m'étais fixé cet objectif-là, écrire un premier recueil, je m'étais fixé aussi un objectif. Donc, il fallait qu'il y ait 100 poèmes minimum. Et de là, ensuite, voilà, j'ai commencé le processus d'écriture. Voilà.
D'accord. Et je voulais revenir un petit peu sur le titre de ton recueil, « À la recherche du temps rêveur ». C'est un clin d'œil à la recherche du temps perdu ?
Oui, complètement, mais un petit peu, disons, qui est venu après l'écriture du... En fait, c'est le nom d'un poème du recueil qui est placé en dernière position. Déjà, peut-être pour expliquer, c'est vrai, le recueil, la structure du recueil, il y a trois parties. Il y a un préambule qui est comme un mini-recueil, ensuite le recueil principal, donc qui s'appelle « À la recherche du temps rêveur », et ensuite, à la fin, un épilogue, qui est, comme le préambule, un mini-recueil, donc à peu près d'une dizaine de poèmes. Et en fait, le titre « À la recherche du temps rêveur », donc c'est le nom du dernier poème du recueil principal. Et à la base, c'est un poème que j'ai écrit pour un concours de poésie qui était organisé par un musée à Bordeaux. Et en fait, c'était sur le thème du voyage. Et donc, j'ai écrit ce poème « À la recherche du temps rêveur ». Et c'est vrai que le titre m'est venu après l'écriture. Et effectivement, oui, il y a eu le clin d'œil comme ça avec Proust, que j'ai même pas lu « À la recherche du temps perdu ». J'ai seulement lu, en tout cas, les premières pages. Ce n'est pas un livre c'est pas forcément mon livre de chevet, mais c'est vrai que le titre, voilà, ça s'est un petit peu imposé comme ça naturellement pour moi, et je suis pas mécontent, je dois le reconnaître quand même qu'il y a ce petit clin d'œil aussi justement avec le livre de Proust.
Et je pense que ça peut être pas mal pour ceux qui nous écoutent, pour comprendre un peu mieux ton univers, que tu nous lises peut-être un des poèmes de ton recueil.
Avec grand plaisir. Donc j'ai choisi de lire un poème qui s'appelle « Le Turinois ». Donc pour un petit peu parler du contexte de l'écriture de ce poème, en tout cas de l'inspiration, c'est un poème que j'ai écrit à partir d'un souvenir de voyage. En fait, j'étais parti il y a quelques années, quelques jours à Turin, donc dans le nord de l'Italie. Et en fait, là-bas, je visite un petit peu la ville. Et un jour, je me suis retrouvé au musée de l'automobile de Turin, qui est un grand musée, un grand bâtiment assez imposant. Et donc, il y a une espèce de petite cafétéria avec une terrasse. Et donc, à un moment, après ma visite, j'étais assis sur la terrasse. Et en fait, à quelques tables, il y avait un monsieur avec un chien. Je pense qu'il devait avoir une trentaine d'années, à mon avis, et qui était vraiment très, très pensif, qu'observait comme ça un peu l'horizon, et ça m'avait vraiment marqué en fait, l'image de ce monsieur comme ça assis sur la terrasse avec un chien qui était très gros en plus, et je sais pas pourquoi ça m'avait marqué ce personnage là. Et donc quand j'étais dans l'écriture du recueil, c'est vrai que j'essayais de me dire dans mes souvenirs un petit peu, que ce soit voyage ou même un peu des souvenirs de vie, qu'est-ce qui pouvait donner matière à un poème. Et j'ai repensé tout de suite à ce monsieur sur la terrasse du musée à Turin. Et puis le titre du poème est arrivé, Le Turinois. Et voilà, je suis parti de là. Donc je vais vous lire ce poème, Le Turinois. Ses yeux découpent le temps horizontal en large palissade. Sous l'auvent du musée national, son chien joue à quelques mètres de lui. Les joues du Turinois sont dévorées de poils drus, qui s'abrite, qui se cache, derrière deux paumes évasives, à la merci du moindre tremblement de tête. Le Turinois est ici en lui-même, souterrain parmi les astres. Il se trouve finalement là, comme le soliflore vide dans le sac du fermier voyageur, comme le cajot de pluie dans la cale du navire écossais, comme le reliquat de banquise déserté des ours, déserté par les papillons d'hiver.
Tu as déjà évoqué un petit peu ton écriture de poèmes, notamment dans le cadre de certains concours. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel est ton rapport à l'écriture ? Est-ce que ça fait longtemps que tu écris ou pas ?
Alors, l'écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné dans le cadre de mes études, notamment justement artistiques, théâtrales, où parfois, voilà, il y avait besoin d'écrire des petites scènes, de penser à la narration dans des projets. Donc, c'est quelque chose que... Voilà, qui était un petit peu présent de cette manière-là, un petit peu indirect. Et en même temps, j'ai aussi quand même des souvenirs, notamment d'ateliers d'écriture de poésie au collège, et où voilà, je me souviens, on avait un cours, il fallait écrire des poèmes chaque semaine et les apprendre, les lire, et les réciter. Donc ça, c'était vraiment la première fois que j'avais écrit vraiment de la poésie. Et donc voilà, comme je te disais, après il y a eu toute cette période où l'écriture finalement était un petit peu au second plan, mais toujours voilà, présente d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, c'est vrai que j'ai commencé, donc après toutes mes études, après différentes expériences professionnelles, là, j'ai commencé vraiment à écrire, donc, d'abord pour des concours de nouvelles, mais aussi des appels à texte pour des pièces de théâtre. Et ensuite, je suis revenu un petit peu à la poésie que j'avais découverte au collège.
Et en touchant un petit peu ces différents genres littéraires, est-ce que pour toi, maintenant, la poésie, c'est un peu une évidence, ou est-ce que tu aimerais peut-être écrire, je ne sais pas, un roman ou des nouvelles ?
Oui, c'est clairement une évidence. C'est vrai qu'en progressivement, plus j'écrivais le recueil, plus je me sentais à l'aise et plus j'appréciais en fait d'écrire de la poésie. Et puis aujourd'hui, je suis vraiment très très fier d'avoir écrit ce premier recueil et de l'avoir publié. Mais en même temps, c'est vrai que mon ambition moyen long terme, on va dire, c'est d'être un auteur quand même assez complet et donc d'essayer un maximum de formats d'écriture.
Tu as des endroits de prédilection pour écrire ou est-ce que tu écris un peu n'importe où ?
Alors j'écris que chez moi, en intérieur, chez moi, jamais dehors. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire à la maison.
D'accord. Et pour toi, l'écriture de la poésie, c'est plus une impulsion ou est-ce que tu arrives à te fixer par exemple des routines d'écriture ? Est-ce qu'il y a des moments de la journée où tu arrives à écrire mieux qu'à d'autres ?
Quand j'étais dans la période d'écriture du recueil, j'avais un peu une espèce de routine. Donc ça a duré à peu près, je dirais, 2-3 mois. Où en fait, je me levais le matin, je prenais mon café et là, je commençais tout de suite à écrire. Souvent, j'avais des listes de thèmes que je voulais aborder. Et en fait, chaque jour, je notais de nouveaux thèmes. Donc ça fait que j'étais rarement à court de thématiques. Et alors les thèmes, c'était parfois, ça pouvait être un mot, mais ça pouvait être une image ou vraiment une thématique précise comme, je sais pas, la solitude ou un poème d'amour, par exemple. Mais souvent, j'avais vraiment des thèmes et voilà.
Et tu sais un petit peu d'où tu puises ton inspiration ? Qu'est-ce qui t'inspire de manière générale ?
Alors, l'inspiration pour l'écriture du recueil, je l'ai trouvée vraiment dans pas mal de ressources, à la fois des souvenirs personnels, nourris de voyages, d'expériences de vie. Et en même temps des choses que je pouvais observer. Donc en même temps que j'écrivais le recueil, de temps en temps j'allais me balader un petit peu. Et puis je voyais des choses, une scène où il y avait des petites choses qui me marquaient. Donc ça c'était aussi la partie un peu observation qui était inspirante. Et puis ensuite je m'inspirais aussi parfois directement d'œuvres d'art, picturales ou photographiques. Et donc j'écrivais des poèmes par rapport à ça. Et donc il y en a certains... En utilisant ce processus qui se sont retrouvés dans le recueil.
Et tu saurais dire plus ou moins combien de temps t'as mis pour écrire ce recueil, du premier au dernier poème à peu près ?
Alors l'écriture, je dirais que c'est à peu près entre 3 et 4 mois. Vraiment 3-4 mois d'écriture pleine. Et ensuite, après, c'est vrai qu'il y a eu toute la partie diffusion, de comment mon souhait au début c'était de le faire éditer par une maison d'édition. Puis en fait progressivement je me suis rendu compte que l'auto-édition était ce qui allait me convenir le mieux. À cette période-là, j'ai aussi retravaillé le recueil. Donc ça fait que après ces 3-4 mois d'écriture, en fait, c'était on va dire une première version. Ensuite, il y a eu à peu près 3 mois où j'étais plus sur la stratégie de diffusion, comment j'allais le diffuser, l'éditer, le publier. Et de là, il y a eu, on va dire, encore un mois de retravail et jusqu'à vraiment la première publication.
D'accord. Et toi, tu es quelqu'un qui retravaille beaucoup tes textes une fois que tu les as écrits ou une fois que tu as écrit un texte, en général, il est un peu dans sa version définitive déjà ?
Alors, d'abord, j'écris sur un carnet ou sur des feuilles A4 blanches. Et ensuite, après, donc... Oui, je vais quand même le retravailler pas mal. Et puis ensuite, après, une fois que j'ai une version qui me satisfait, là, je passe à l'ordinateur. Et à l'ordinateur, là, je vais encore peut-être faire quelques modifications, mais vraiment, qui sont assez légères.
D'accord. Donc pour toi, c'est vachement important d'écrire à la main le poème. Est-ce que ça t'arrive d'écrire aussi, par exemple, sur ton téléphone ou des choses comme ça ?
Je pense que je pouvais écrire pendant que j'écrivais le recueil. Je pouvais écrire parfois des petites notes sur mon téléphone, mais je pense que c'était assez rare. J'étais quand même vraiment beaucoup sur les carnets. Et oui, c'est vrai que j'avais vraiment ce besoin d'écrire à la main avant de passer voilà, à recopier à l'ordi.
Du coup, toi, tu as édité ton recueil en passant par la plateforme d'auto-édition The Book Edition. Raconte-nous un peu ton parcours pour faire éditer ton recueil et qu'est-ce qui t'a fait pencher déjà pour l'auto-édition et pour cette plateforme en particulier.
Donc moi, au début, mon paradigme, c'était vraiment d'être édité en maison d'édition. Donc j'ai envoyé beaucoup de manuscrits à pas mal de maisons d'édition spécialisées poésie en France, en Belgique et d'autres maisons d'édition plus généralistes. Et en fait, j'avais reçu à ce moment-là très peu de réponses ou quelques réponses négatives. Et en fait, via Instagram, j'avais découvert une jeune maison d'édition qui n'était pas forcément spécialisée dans la poésie. Et donc, je les ai contactés. Et en fait, finalement, bah là, y a eu une opportunité donc d'être édité via cette maison d'édition. Et donc, j'ai signé un contrat. Mais en fait, il se trouve qu'au bout d'un mois, finalement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas me correspondre. Et donc, j'ai préféré résilier ce contrat avec cette maison d'édition. Là, se sont passés quelques mois. J'étais un petit peu dans la réflexion justement de qu'est-ce que j'allais pouvoir faire, comment... À un moment, je pensais carrément abandonner, quoi. Finalement, ne pas pousser le manuscrit jusqu'à l'édition. Là, en fait, finalement, l'auto-édition, je me suis penché dessus, commencé à voir un petit peu ce qui se faisait en France, les différentes entreprises qui proposaient ça. Et j'ai trouvé The Book Edition. Donc, le nom est anglais, mais c'est une entreprise française d'auto-édition, une plateforme d'auto-édition qui est en fait reliée à une imprimerie, l'imprimerie Reprocolor, donc, qui est basée dans le nord de la France, et donc qui imprime en fait les livres à la demande. Donc ça fait qu'il n'y a pas de gestion de stock, il n'y a pas une prise de risque du coup par rapport à ça en tant que jeune auteur. Et c'est imprimé du coup en France. Voilà, donc imprimé à la demande, imprimé en France, avec voilà, The Book Edition donc, qui permet d'avoir un site internet, d'être visible et que les lecteurs puissent commander directement le recueil sur le site de The Book Edition. Avec la possibilité également de faire moi-même la maquette du recueil et également de concevoir la couverture. Donc voilà, finalement, c'est la solution que j'ai retenue et dont vraiment que je suis très content d'avoir choisi. Parce que je trouve que justement, ça responsabilise en fait beaucoup en tant qu'auteur de pouvoir tout faire, à part donc quand même l'impression et la distribution. Mais voilà, je trouvais ça très très intéressant.
D'accord, et maintenant que tu as cette expérience justement de l'auto-édition, est-ce que à l'avenir tu penses aussi t'auto-éditer pour des prochains recueils de poésie par exemple, ou est-ce que tu aimerais bien justement quand même passer par la voie classique de l'édition ?
Mais je suis ouvert aux deux possibilités. Disons que ça m'intéresserait quand même d'être édité donc par une maison d'édition, mais maintenant que j'ai ma petite expérience, on va dire, pour sacrifier un petit peu de cette liberté que donne l'auto-édition, à la fois je dirais liberté et responsabilité, parce que vraiment je trouve que ça, c'est un processus qui responsabilise en tant qu'auteur. Donc pour sacrifier un petit peu de cette responsabilité, de cette liberté, j'ai des conditions qui sont quand même assez exigeantes en termes de communication, de stratégie de diffusion, et je ne suis pas sûr qu'une maison d'édition puisse entrer dans cet esprit-là. Donc, pour le moment, c'est un peu c'est un préjugé que j'ai, mais voilà, peut-être qu'il pourrait y avoir une bonne surprise. Mais en tout cas, voilà, pour répondre vraiment à ta question, je suis ouvert aux deux possibilités.
Et justement, pour toi, ce serait quoi les avantages et les inconvénients de l'auto-édition ?
Alors, les avantages, comme je disais, je trouve que ça responsabilise, puisque du coup, on a pas mal de choses à gérer, que ce soit ne serait-ce que la conception du recueil. La couverture, la maquette, même si on peut choisir de collaborer avec des spécialistes de ces deux domaines. Mais voilà, il y a vraiment ce côté, ça responsabilise l'auteur. Et donc, et ensuite, après la partie conception du recueil, la partie un petit peu éditoriale finalement, eh bien, il y a toute la partie de diffusion, de communication, donc notamment via les réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire de la création de visuels, des extraits, des messages qu'on envoie pour annoncer la publication, toute cette partie-là. Et puis ensuite également des partenariats qu'on essaye de mettre en place avec par exemple des structures comme des librairies, des festivals, des choses comme ça.
Et pour la conception de la couverture, ça, est-ce que tu as rencontré des difficultés pour choisir un petit peu le visuel ou tu avais déjà eu une certaine approche du graphisme par le passé ?
Alors en fait, c'est vraiment en commençant à communiquer, notamment sur Instagram, à créer des visuels avec des extraits de poèmes, que j'ai commencé à avoir un petit peu ce goût du graphisme via l'application Canva notamment. Et du coup, en fait, ensuite, j'ai créé la couverture toujours via cet outil. Donc la première couverture, je l'ai créée via cet outil-là. Donc c'était une couverture assez épurée. Et ensuite, la deuxième couverture, très colorée. Pareil, voilà, je l'ai créée, mais assez facilement, en fait.
Et qu'est-ce qui t'a amené justement à faire une deuxième édition de ton recueil ? Parce que je crois que c'est le même contenu que la première édition, c'est les mêmes poèmes. Mais qu'est-ce qui t'a poussé justement à vouloir faire cette deuxième édition ?
Oui, complètement, c'est le même contenu. En fait, la première édition donc, a été publiée le 29 novembre 2021, donc un peu période automne-hiver, si je peux parler en termes de saisonnalité. Du coup, la couverture en fait, était complètement blanche avec le titre du recueil en noir, donc très épuré, et puis un côté un petit peu donc, toute blanche, un peu la neige, quoi, l'écho comme ça de saison. Et en fait, il y a eu trois raisons qui m'ont donné envie de faire une deuxième édition. La première, c'est que je voulais un petit peu célébrer le fait que la barre des 100 premiers exemplaires ait été atteinte, donc des 100 premiers exemplaires vendus. Bon, pour moi, c'était vraiment quelque chose quand même d'assez important. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'était que j'avais envie de proposer un univers visuel différent, donc vraiment à l'inverse de la première couverture donc, qui était très épurée et noir et blanc. Là, j'ai voulu vraiment proposer quelque chose de très coloré. Et ensuite, la troisième raison, c'était vraiment une raison un petit peu, on va dire, pratique, c'est qu'on m'avait signalé trois ou quatre coquilles orthographiques dans la première édition. Et du coup, en fait, en faisant une deuxième édition, c'était aussi l'occasion pour moi de modifier ces petites coquilles, quoi.
Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes goûts en matière de poète et de poésie, pour comprendre aussi un peu plus ton univers ? Quels sont les poètes qui t'ont le plus inspiré ou que tu aimes le plus ?
Alors, les deux poètes français que j'aime le plus, c'est Arthur Rimbaud et Jacques Prévert.
Ok, et justement, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement chez ces deux poètes ?
Alors, Rimbaud, que j'ai découvert assez tard en plus, je suis vraiment fasciné par les images en fait, qu'il crée, tout le travail de la langue, je trouve ça vraiment incroyable. Donc, je parle vraiment une saison en enfer surtout. Et si j'avais un poème vraiment à conseiller, c'est Adieu, donc qui est le dernier poème d'une saison en enfer. Et pour Prévert, c'est vraiment les thématiques. Et là, si je devais retenir un poème, ce serait Le Cancre. C'est vraiment, j'aime beaucoup le rythme qui crée la musicalité en fait, de Prévert. Et puis cette espèce de fait de traiter des thématiques un peu quotidiennes. De la vie un peu de tous les jours. Je crois que c'est vraiment ça que j'aime bien. En fait, c'est un peu ce grand écart entre Prévert et la poésie du quotidien et Rimbaud dans l'imagination la plus totale.
Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes lectures ? Quelles sont tes lectures récentes ou des lectures qui t'ont marqué et qui ont marqué ton écriture ?
Dans mes auteurs fétiches, il y a Émile Zola avec Germinal. Ensuite, il y aurait Martin Eden de Jack London. Et Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ça, c'est vraiment mes trois romans vraiment fétiches. Et ensuite, mon livre de chevet, je dirais que ce serait le manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho, qui est plein de petits textes assez philosophiques.
D'accord. Et je pensais à un truc. Est-ce qu'il y aurait un recueil de poèmes ou un poète que tu recommanderais pour des gens qui sont un petit peu réticents face à la lecture de poésie ? Ou qui n'osent pas l'aborder ?
Je recommande vraiment, du coup, comme c'est un peu mes deux poètes français préférés, Jacques Prévert et Arthur Rimbaud, du coup, et donc là, Une saison en enfer. Vraiment, ce seraient les deux que je recommanderais beaucoup.
Ouais, je pense que tu as raison, Prévert, il a une écriture vraiment facile d'accès, je pense. Et est-ce que tu saurais dire ce que représente la poésie dans ta vie ? Qu'est-ce qu'elle t'apporte ?
C'est vrai que quand j'écris de la poésie, je suis vraiment, enfin ça me rend heureux en fait, tout simplement d'écrire des poèmes. Et puis c'est vrai que moi j'aime beaucoup les mots quoi, de la langue française, qui est vraiment une langue très très riche. Voilà, j'aime les mots, j'aime leur sonorité, leur apparence, leur sens aussi. Du coup, bah, la poésie, finalement, c'est jouer avec les mots. Si je devais donner ma définition de la poésie, ce serait établir en quelques mots un chemin vers l'imaginaire et l'émotion. Du coup, voilà, c'est vraiment... Ça représente bien pour moi un petit peu la poésie, en fait.
Et pour toi, les clichés véhiculés sur la poésie sont réels ? Par exemple, le fait que la poésie se soit considérée comme un genre élitiste Est-ce que tu comprends aussi que beaucoup de gens ont du mal à s'y intéresser ?
Mais c'est vrai que je pense qu'en France, il y a un rapport à la poésie qui est un petit peu particulier, qui fait que la poésie, elle est très rattachée aux souvenirs un petit peu d'école, école primaire, peut-être collège, mais surtout j'ai l'impression école primaire où on doit apprendre des poèmes. Alors parfois c'est des bons souvenirs, parfois c'est des mauvais souvenirs parce qu'on doit réciter un poème devant tout le monde. Donc des fois voilà, il y a un petit peu déjà cette connotation un peu dans les souvenirs, j'ai l'impression. Et puis globalement, je trouve que c'est vrai que la poésie, c'est pas vraiment une discipline qui est mise à l'honneur. En tout cas, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire pour la rendre encore plus accessible. Elle l'est d'une certaine manière, mais je pense qu'elle pourrait l'être vraiment beaucoup plus. Pour te donner un exemple un petit peu précis, par exemple, moi, donc, j'ai participé en 2020 au concours de la RATP, le Grand Prix Poésie de la RATP. Pour moi, c'est vraiment le meilleur concours en France. Voilà, c'est vraiment le concours de dimension nationale. Tu as vraiment des milliers et des milliers de personnes qui participent. Mais qui est-ce qui organise ce super concours ? C'est la RATP, donc, qui est quand même une société de transport de la région parisienne. Et donc, si tu veux, pour moi, c'est un exemple qui montre bien un petit peu, voilà, qu'il y a encore quand même beaucoup de choses à faire, notamment, je pense, en termes de concours nationaux de poésie, mais en termes de prix. Voilà, il y a pas mal de choses qui se font, mais il pourrait y en avoir quand même beaucoup, beaucoup plus.
Et pour rebondir un petit peu sur les questions que je te posais tout à l'heure sur tes préférences en matière de poète et de poésie, est-ce que toi, tu t'intéresses un petit peu à la poésie contemporaine aussi ?
Alors je m'y intéresse, c'est vrai que je lis comme ça de temps en temps des auteurs contemporains. Après voilà, j'ai vraiment ces deux points d'attache donc qui sont on va dire plus classiques et à différentes époques que sont Prévert et Rimbaud. Mais c'est vrai que je suis bien sûr pas fermé, je lis quand même de la poésie contemporaine, que ce soit voilà, de la poésie vraiment éditée, mais aussi via Instagram où il y a quand même pas mal de poésie accessible et disponible et qui se fait.
Justement, ça me permet d'enchaîner sur la prochaine question. Dans mon dernier épisode, je m'interrogeais sur la place de la poésie sur Instagram et je voulais avoir un peu ton avis sur le sujet.
Bah, c'est vrai que ça, moi, quand j'ai créé mon compte Instagram il y a à peu près un peu plus d'un an, j'ai découvert, je n'imaginais pas du tout qu'il y avait autant de créations poétiques qui étaient présentes. Et puis ensuite, après, voilà, j'ai vu tous les comptes aussi de lecture, donc là, avec plus des livres vraiment qui sont pris en photo, dont on parle. Donc j'ai découvert tout ça et c'est vrai que j'étais vraiment agréablement surpris. Et puis après, au fur et à mesure, c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait, la poésie peut prendre plein de formes très différentes. Mais on va dire que c'est un format d'écriture assez court, quoi. Et donc sur Instagram, il y a beaucoup de choses qui se font, vraiment beaucoup de styles très différents. Il m'arrive vraiment notamment dans les comptes que je suis, d'apprécier vraiment beaucoup, beaucoup ce qui se fait, quoi.
Et toujours par rapport à cette idée de place de la poésie et de format, toi, c'est quoi ton approche par rapport à la poésie orale ? Est-ce que pour toi, un texte de poésie, c'est avant tout un texte écrit qui doit rester dans un recueil ? Ou est-ce que c'est important justement de lui donner une dimension orale, lue ou même interprétée d'autres manières ?
Ouais, l'écrit et l'oral sont vraiment hyper importants. D'ailleurs, à propos de l'oral, y a un film que je pourrais conseiller à tes auditeurs, c'est Slam de Mark Levin, donc, qui date des années 90, avec un slammer américain qui s'appelle Saul Williams, qui doit avoir, je pense, peut-être la cinquantaine aujourd'hui. Et ça, c'est un film voilà, qui parle du slam aux États-Unis. Mais donc forcément, le slam, c'est de la poésie, c'est la partie orale de l'iceberg poésie. C'est un film que vraiment je recommande. Et pour répondre à ta question, ouais, les deux sont très importants. Personnellement, moi, en tant qu'auteur, j'ai pas encore eu la possibilité de faire des lectures à voix haute, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. C'est vraiment une partie essentielle, je pense, de la poésie, qui va aussi dans le sens de la rendre accessible au plus grand nombre.
On arrive déjà bientôt à la fin de notre échange et je t'avais demandé de choisir un deuxième extrait de ton recueil pour nous le lire. Alors, quel poème tu as choisi ?
Donc j'ai choisi le poème « À la recherche du temps rêveur », donc qui est le poème éponyme du recueil. Mille flots, mille lunes, mille rivages ne m'ont-ils pas bercé ? N'ai-je point entendu chanter les vents, vu démente les pluies s'abattre, puis le soleil tout arrangé avant l'incorrigible nuit ? Et toutes ces âmes diverses, tous ces regards multicolores, au fond desquels mes yeux décelaient tantôt l'espoir, tantôt l'intrigue, tantôt l'amour, le vrai, l'unique, n'ai-je donc point croisé leur route ? Lancé à toute allure aux trousses du temps rêveur, débordant d'audace sur des bancs de banquise en dérive, m'agrippant mélancolique aux roches de collines volcaniques ou bien reposant libre dans le creux de pampas verdoyantes. Quel autre que moi-même alors, si ce n'est peut-être vous, vous à qui il revient désormais d'appliquer solennel l'adage magique propre aux destinées hardies, peu importe l'allure, seul compte l'aventure.
Merci pour ta lecture et merci d'être passé dans mon podcast. Je rappelle qu'on peut trouver ton recueil sur le site internet de The Book Edition et on peut avoir le lien direct dans ta bio Insta, Twitter et LinkedIn. Et de toute façon, je vais mettre tous les liens dans la barre d'infos pour que ce soit plus facile pour les trouver. Et voilà, merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup Lina de m'avoir reçu.
Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode très vite. Merci à vous.